BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Merci de nous faire confiance jour après jour. Voici BFM Patrimoine qui vous ouvre ses portes. On vous accueille pour 2 heures d'expertise afin que vous puissiez gérer au mieux votre argent. Et on commence par un petit détour sur les marchés. On retrouve Antoine Larry-Gaudry qui est installé chez Euronext à La Défense et qui regarde pour nous un petit peu ce qui se passe sur les marchés. Ce CAC 40 qui, derrière vous, Antoine, affiche toujours du rouge pour le moment, mais du rouge peut-être un peu moins foncé que dans les première minute. Est-ce que finalement le marché est en train de nous refaire la même séance qu'hier, démarrage en forte hausse pour finalement clôturer en forte... Enfin, démarrage en forte baisse, pardon, pour clôturer en forte hausse.
Voilà.
On va y arriver.
On tente un truc en tout cas, hein. C'est très clairement la tendance du moment, c'est-à-dire qu'on a vraiment accusé le coup après la tendance négative consécutive à la décision de la Fed de remonter ses taux de 0,75%. Alors les effets collatéraux, on les a vus, tension sur les taux et notamment sur les taux de 2 ans américains, très forte hausse du dollar par rapport à toutes les autres monnaies, mais ça on s'en est parmi, hein. L'euro traîne toujours sur ses plus bas de l'année, hein, face à la devise américaine du côté des 98 cents, le yen qui s'affaiblit encore après un statu quo de la Banque Centrale Japonaise ce matin. On a également de fortes tensions sur l'obligataire qui provoquent une baisse des valeurs de croissance, des commentaires de la Fed sur la récession à venir qui paraît inévitable, en tout cas un fort ralentissement économique qui est voulu, notamment aussi sur le plan du marché du travail. Ce seront les ingrédients principaux d'une stabilisation des prix, hein, selon la Réserve fédérale américaine. Bah, tout ça, évidemment, ça réduit les perspectives et la visibilité pour les valeurs cycliques comme pour les valeurs de croissance. Et tout ça, évidemment, ça induit une forte baisse des indices. Malgré tout, on essaie d'encaisser un petit peu cet état de fait. Déjà parce que 75 points de base, on s'y attendait. On s'attendait même à pire. On s'attendait à 1%. Alors, on va voir un petit peu ce que ça donne du côté de la Banque Centrale Britannique à la mi-journée, qui doit, elle aussi, statuer sur ses taux. Théoriquement, c'est 50 points de base qui sont attendus. Peut-être plus, tant la Banque Centrale Britannique a été à l'avant-garde du mouvement de normalisation monétaire, mais a pris du retard sur le fait phénomène inflationniste. Donc du coup, on est un peu dans cette entre-deux, on essaie de digérer les nouvelles les unes après les autres et ça nous donne un CAC 40 qui est dans le rouge effectivement, mais qui ne perd que, si on peut dire, 0,7%. On est à 5 989 points sur l'indice parisien. On était quasiment à 6 000 points là, il y a une grosse dizaine de minutes. L'Eurostock 50 recule de 0,6% et moins 0,5% pour le DAX à Francfort. Les valeurs à la baisse, alors à noter Unibail-Rodamco-Westfield qui perd 4%, 46,76 €. On a un mélange de valeurs cycliques et de valeurs de croissance parmi les plus fortes baisses. On a STMicro qui recule de 2,4% à 35,98 €. On a Saint-Gobain, moins 2,55 € à 38,93 €. Le reste du secteur du luxe aussi, Hermès qui perd 2% à 1244,50 €. De la techno encore avec Dassault Systèmes qui perd 1,7% à 35,89 €. Mais on se replie sur un certain nombre de valeurs. Alors les valeurs bancaires, hein, bien sûr, stimulées par ces perspectives haussières en matière de taux. On a Société Générale qui gagne 0,5% à 23,27 €. Crédit Agricole plus 0,26 à 9,21 €. BNP Paribas plus 0,49 à 48,20 €. Pour le reste, on s'est replié sur des valeurs défensives. Orange plus 0,87% à 9,84 €. Sanofi plus 0,6 à 79,56 €. Danone plus 0,52 à 49,62 €. À noter la plus forte hausse du SBF 120, elle est pour McPhy Energy, le spécialiste de l'hydrogène, qui gagne 2,5% à 8,55 €. Le CAC donc sur une baisse somme toute modérée. On essaie de se trouver des supports, on essaie de se raccrocher aux 6 000 après une ouverture en forte baisse. On est à 5 992 points. L'euro, je vous le disais, 0,9864 face au dollar.
Antoine Larry-Gaudry qui nous accompagne chaque matin pour décrypter cette première heure de cotation.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zépipo.
Sébastien Féjean nous attend chez Edémite Cap. Bonjour Sébastien.
Bonjour Cédric.
Et vous nous proposez de jeter un œil sur Neurone. Est-ce qu'on peut commencer par un petit portrait?
Oui, Neurone, c'est une ESN, donc une entreprise des services numériques, qui travaille donc pour les différents acteurs à la fois bancaires, énergie, services publics, industrie et BTP. Donc en fait, ils vendent des journées d'ingénieurs pour des projets de digitalisation de ces grandes entreprises. Donc c'est ce qu'on appelait avant une SS2I.
Alors qu'est-ce qui justifie ou qu'est-ce qui vous a donné envie ce matin de mettre Neurone en avant?
Et bien en fait, en ce moment, ce qu'on essaie de faire, c'est surtout de trouver des boîtes qui vont pas trop baisser, hein, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans un environnement assez anxiogène, avec beaucoup d'incertitudes que vous mentionnez à longueur de des heures d'antenne. Donc c'est vrai que actuellement on cherche surtout à avoir en portefeuille des sociétés qui présentent un profil défensif, et c'est exactement le cas de Neuron, hein, qui avait déjà fait office de refuge lors de la crise sanitaire, puisque c'est vrai que le titre avait plutôt bien réagi. Et c'est en fait la raison principale pour ce caractère défensif, c'est que Neuron dispose de beaucoup de cash à son bilan, hein. On a plus de 50 millions d'euros de cash net attendu à la fin de l'année. Et donc c'est évidemment un matelas qui permet d'être relativement serein sur les perspectives du groupe.
Quels sont les autres points positifs ou les points d'attention que vous avez envie de mettre en avant ce matin ?
En plus de ce niveau de cash qui est très important, hein, alors ça pose évidemment la question de son utilisation à moyen terme, c'est que Neuron a publié des résultats pour le premier semestre qui ont été de très bonne facture, hein. On a une croissance organique de 12,5%. On a eu en fait pendant l'été un relèvement des prévisions pour l'année. Le groupe a atteint un niveau de marge opérationnel qui a été le plus élevé jamais atteint, à 11,7% au premier semestre. Et donc globalement, c'est vrai qu'on a non seulement donc une société qui dispose donc encore une fois de marge de manœuvre extrêmement importante. Alors c'est vrai qu'on a toujours reproché à Neuron d'avoir trop de cash et de pas faire suffisamment utiliser ce trésor de guerre pour faire notamment des acquisitions. Mais dans les périodes que nous traversons, c'est vrai que c'est aussi également une très forte protection. Et donc on est vraiment assez serein. D'autant qu'encore une fois, la société continue à très très bien délivrer, hein, puisqu'en fait pour l'année en cours, elle prévoit quand même encore une fois une croissance qui devrait être assez sensible, et une marge qui devrait peut-être un peu ralentir, enfin un peu baisser au second semestre, mais qui permet encore une fois d'avoir un excellent acteur et qui est encore une fois très défensif.
Bon, on doit parler aussi un petit peu valorisation, parcours boursier, objectif de cours. Comment est-ce que vous regardez tout ça ?
Déjà, on voit que depuis le début de l'année, le côté défensif de Neuron apparaît, puisqu'en fait, le titre ne baisse que de 8% face à un indice qui perd 16%. Donc, c'est déjà, ça marque bien effectivement le côté défensif. Et ensuite, si on fait juste en fait un comparable de Neuron par rapport donc à ses principaux aux autres ESN cotés, on arrive à un objectif de cours de 41 €. Donc alors surtout ce qu'on cherche avec Neuron, c'est d'avoir en fait une société très solide en fonds de portefeuille. Et donc c'est évidemment pas sûr qu'on atteigne les 41 € dans le contexte actuel, mais ce qui est sûr, c'est que le potentiel de baisse est très limité.
Même si on a finalement touché au cœur de l'été le plus haut historique du titre.
Exactement, mais bon, on espère qu'on va quand même, encore une fois, retrouver des vertus à une société qui délivre, qui dispose de moyens très conséquents et qui va être recherchée dans un environnement plus compliqué.
On est à 35,05, vous visez donc 41 €, recommandation d'achat, c'est une hausse pour le moment de 2,64% ce matin sur Neuron. Merci beaucoup Sébastien Féjean, Idemit Cap qui nous accompagnait ce matin dans la côte parisienne. Le CAC 40, lui, eh bien il continue pour le moment de baisser, mais il tente de limiter les dégâts, moins 0,65%, 5 992 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Christopher Dembick est en ligne avec nous. Bonjour Christopher.
Bonjour Cédric.
En ligne avec nous depuis Saxo Bank, et inévitablement, c'est bien évidemment la Fed qui nous préoccupe ce matin. La Fed qui a donc opté pour 75 points de base, c'est vraiment ce qu'attendait tout le monde, le consensus 100% on va dire des observateurs ou des probabilités estimaient 75 points de base, et puis certains voyaient encore peut-être 100 points de base. D'abord, votre réaction sur ce choix, 75 et non pas 100?
Ah, ça semble assez évident pour une simple et bonne raison, c'est que la réserve fédérale, elle aime pas surprendre les marchés. Il n'y a aucune raison pour qu'elle ait décidé à un peu abruptement une hausse de 100 points de base, sachant qu'on n'avait pas de nouvelles catastrophiques sur l'inflation. Alors bien sûr, la décélération de l'inflation aux États-Unis, elle est beaucoup plus lente que ce qu'on avait anticipé. Mais la réalité, c'est que ça ne changeait pas la donne. Donc l'essentiel était d'envoyer un message clair au marché, de ne pas le surprendre. Et regardez, d'ailleurs, on a eu quand même le consensus, c'était 75 points de base. La réaction des marchés, elle a déjà été plutôt un peu négative initialement. Je crois que quand le communiqué a été publié, on a une baisse quand même de 2 200 points du Nasdaq, c'est énorme, et aussi une dégringolade dans la foulée, par exemple, de l'euro-dollar. Donc, imaginez si on avait eu 100 points de base, ça aurait envoyé un message un peu catastrophiste, une forme de peut-être de panique du côté de la Fed sur l'inflation. C'était pas l'idée, et d'ailleurs, je pense que Jerome Powell a fait le job, à savoir qu'il a envoyé un message assez clair sur le fait que les hausses de taux, on va en avoir plusieurs dans les mois à venir.
Et oui, parce que dans la bouche de l'ensemble des intervenants qui se sont exprimés ces derniers jours sur le plateau, tout le monde disait, bon, le taux facial, il va être important à regarder, mais ce qui sera peut-être encore plus révélateur, ce sont les dot plots, ce sont un petit peu les perspectives, justement, comment voyez-vous le chemin de la hausse des taux se poursuivre à Washington ?
Alors très clair, effectivement, ce qui comptait, il y avait deux aspects. C'était de regarder le PCE, qui est la mesure préférée de l'inflation par la Réserve fédérale. Et l'autre point, vous l'avez mentionné, c'est tout simplement les dot plots, parce que ça nous donne une évolution un peu de ce qu'on doit attendre en termes d'hausse des taux directeurs. Et on a bien évidemment, en termes de taux médian, on a une hausse à 4,6% qui a été largement commentée par le marché au niveau du taux terminal pour la Fed. Donc le taux à partir duquel on n'attend pas en tout cas de nouvelle hausse de taux, ce serait le pic en termes de taux d'intérêt. C'est une hausse assez faible par rapport au taux terminal précédent qui était à 4,5%, mais ça envoie un message clair, à savoir un message au quiche qu'on va avoir des hausses de taux très importantes. Et d'ailleurs, regardez, au niveau des dot plots d'ici la fin de l'année, on s'attend à au moins 125 points de base. Donc le consensus, l'idée, c'est 75 points de base en novembre et 50 points de base en décembre. Et surtout, ça va continuer l'année prochaine. Je pense que le message qui était clair, qui a été envoyé par Jerome Powell, c'est de dire que on doit combattre à tout prix l'inflation parce que c'est le principal problème, quitte à ce qu'on passe par une croissance en berne. Alors, les prévisions de croissance sont encore un peu optimistes, certainement, pour l'année prochaine. Mais bon, ça, vous le savez, c'est révisé assez régulièrement.
Justement, il a eu quasiment dans son expression cette volonté d'enfin assumer de vouloir voir monter le chômage pour casser l'inflation. C'est quelque chose qui peut passer outre-Atlantique.
C'est compliqué, faut bien le reconnaître, mais force est de constater que les estimations d'hausse du taux de chômage qui sont présentées d'ici à fin 2023, fin 2024, on n'est pas, en tout cas estimation de la Fed, hein, bien sûr, on n'est pas sur une envolée du taux de chômage. Alors, mon point de vue, c'est que c'est peut-être un peu optimiste. Grosso modo, la voie qui est tracée par Powell, c'est le scénario idéal, peu de personnes y croient, c'est-à-dire on arrive à réduire l'inflation assez drastiquement, puisque les prévisions en 2023, c'est quand même une baisse assez drastique de l'inflation. Et dans le même temps, on a simplement une atténuation de la croissance. Alors bon, bien sûr, ce sera sous 2%, mais une hausse du taux de chômage qui sera contenue, puisqu'on sera toujours en dessous de 5% l'année prochaine. C'est un peu le scénario idéal, et le problème, c'est que j'ai un peu de mal à voir. Je ne considère pas que les États-Unis risquent une récession, mais je vois un peu mal comment, avec une récession en zone euro, à des conditions financières qui soient moins accommodantes, on va avoir un peu ce scénario idéal où finalement tout se passe bien. Et c'est là où je pense qu'il faudra être assez prudent, et c'est peut-être aussi un des éléments qui explique que le marché a assez mal réagi initialement.
Voilà donc la lecture proposée par Christopher Denbigh de cette décision de la Fed. Merci Christopher. Bonne journée Christopher depuis Saxo Bank et ce marché parisien qui tente d'effacer ses pertes ou en tout cas de les limiter fortement. On abandonne 0,69%, 5 989 points.
Votre rendez-vous avec Otari, solution B2B pour simplifier et accélérer la vente d'immobilier neuf. Otari. BFM Business, BFM Patrimoine, la vie immo.
Bonjour Marc Cœur de Roy.
Bonjour Cédric.
Aujourd'hui, on reparle rénovation énergétique de logement et on n'arrête pas de dire que le risque à se lancer dans l'isolation par l'intérieur, c'est de perdre des mètres carrés. Mais dans quelle mesure ?
Et oui, vous savez, on n'arrête pas de dire oui, mais quand on isole par l'intérieur, bah, on réduit un peu sa surface et tout. Un peu ? Un peu beaucoup quand même. Du coup, j'ai essayé de me pencher sur le sujet. Alors, j'ai appelé FedExpert, vous savez, qui représente un grand syndicat de diagnostiqueurs. Et alors,
j'ai cru que vous aviez sorti votre calculette.
Non, je ne sais pas faire les calculs, même avec une calculatrice. Donc, on a regardé ensemble et je me suis servi de leur lumière pour essayer d'estimer un tout petit peu cette perte d'espace, cette perte de surface liée à l'isolation par l'intérieur. Vous allez perdre entre 5 et 7 mètres carrés, enfin 5 et 7% de votre surface. C'est même pas 5 ou 7 mètres carrés. Plus c'est grand, plus vous perdez, évidemment. Pourquoi ? Parce que vous allez forcément épaissir le mur. En fait, il n'y a pas 36 000 solutions pour faire une isolation par l'intérieur. Mettez une plaque de BA13, enfin plusieurs même, et puis derrière, de la laine de verre, de la laine de roche, enfin bon, bref. Bref, vous allez isoler. Et donc, a priori, votre épaisseur moyenne, c'est 5, 10, souvent plus 10 cm. Donc, forcément, vous allez perdre des mètres carrés, évidemment. Alors, ça a l'air de rien quand je vous dis effectivement 5-7%. 7% sur un 50 mètres carrés, c'est quand même 3 mètres carrés et demi de moins. Et si je double ma surface pour un appartement familial, disons, ou une maison, un logement familial, vous arrivez à une surface digne d'une cuisine. En gros, vous allez perdre l'équivalent d'une cuisine à faire de l'isolation par l'intérieur quand vous êtes sur une centaine de mètres carrés de logement, quoi.
Et du coup, faut le multiplier par le prix du mètre carré, c'est
ça ? Bah oui, c'est ça. Et après, ça fait un petit peu mal parce qu'effectivement, vous regardez à Paris, par exemple, à 10 000 euros du mètre carré, ça fait un peu mal. Par exemple, même si je perdais que 3 ou 4 mètres carrés, je perds quand même une quarantaine de milliers d'euros. Parce que c'est ça, ça fait des décotes quand même, importantes, sur le prix au mètre carré. Mais bon, vous allez me dire mon prisme parisien. Mais quand même, c'est pas complètement indolore quand je regarde ailleurs. Par exemple, à Lyon et Bordeaux, là, je perds pareil, les 4 mètres carrés, je vais perdre 20 000 euros. Entre 15 et 17 000 euros de perdu à Marseille ou à Rennes, c'est quand même pas complètement indolore pour ceux qui se lancent dans tels travaux quand même.
Bon, mais on perd en valeur, on perd en mètre carré effectivement et donc en valeur potentielle, ouais. Mais on redonne aussi de la valeur par les économies d'énergie, non ?
Alors oui, à terme, ça vaut quand même le coup. Il faut quand même le rappeler parce que effectivement, il ne faut pas avoir peur en disant « Oh là là, je préfère ne rien faire ». Alors, j'ai demandé justement à la Fédération des diagnostiqueurs FEDExperts de me donner un exemple très précis. Alors, pour le coup, c'est un exemple réel. Ce n'est pas des projections. Donc là, le cas d'un 5 pièces d'une centaine de mètres carrés dans les Yvelines. Là aussi, isolation par l'intérieur. Elle a coûté, cette isolation, environ 10 000 euros au propriétaire. Au final, ce propriétaire, il n'a perdu qu'environ 4 mètres carrés. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en réalité, quand vous faites de l'isolation par l'intérieur, vous n'allez pas ajouter 10 cm sur tous les murs. Vous allez évidemment vous concentrer sur les murs qui sont extérieur. En contact avec l'extérieur ou avec des pièces qui ne sont pas chauffées. Donc, typiquement, en fonction de la typologie de votre bien, vous allez perdre plus ou moins. Mais là, en l'occurrence, ils n'ont perdu, ces propriétaires, que 4 mètres carrés. Et surtout, ces travaux permettent à ce propriétaire d'économiser 1500 euros par an. Donc, c'est pas complètement indolore. Alors, notez quand même que ce propriétaire, il n'a gagné qu'une seule classe. En fait, son logement, il est passé de F à G. Ça fait quand même un tout petit peu...
De G à F.
De G à F, voilà. Ouais, pardonnez-moi.
Sinon, c'est
dommage. Sinon, c'est bien dommage. Donc oui, vous allez me dire, c'est qu'une seule classe. Alors après, le patron de FEDExpert me disait, alors il aurait pu épaissir encore plus, c'est-à-dire plus c'est large, plus vous allez faire d'économies. Donc typiquement, il aurait pu multiplier par deux et faire 20 cm. Bon, il aurait perdu quand même 8 mètres carrés. Mais effectivement, là, du coup, il aurait sauté deux notes et donc il serait arrivé à E. Donc effectivement, ça aurait été intéressant. Mais ce que me disait le patron de FEDExpert, c'est qu'il faut trouver un équilibre entre la perte de mètres carrés et donc de valeur de mon logement que je suis prêt à accepter par rapport aux économies et à l'effet sur ma note que j'ai envie de viser. Et donc du coup, c'est souvent un bouquet. Vous n'allez pas faire que de l'isolation par l'intérieur, vous allez aussi faire d'autres trucs. Notez quand même qu'il y a des cas où justement le patron de FEDExpert me dit surtout ne faites pas d'isolation par l'intérieur. Et le cas typique, c'est l'immeuble haussmannien. Parce que là, en l'occurrence, en termes de perte de valeur et de surface, ça vaut vraiment pas le coup par rapport aux économies réalisées. En fait, il me disait qu'il y a plein d'autres choses sur lesquelles on peut jouer dans ces immeubles haussmanniens pour gagner une, voire deux notes. En l'occurrence, il me parlait d'agir sur les menuiseries, donc les portes, les fenêtres, même les trappes. Il me disait, dans les immeubles haussmanniens, il y a pas mal de trappes, etc. Les équipements électriques et surtout système de chauffage et d'eau chaude. Ça, c'est vraiment la clé qui peut vous faire sauter deux notes assez facilement, me disait-il. À l'inverse, et ça, notez-le bien, si votre immeuble date alors des années 45 jusqu'au début des années 80, il s'agit souvent d'immeubles très très mal isolés. Et donc là, en l'occurrence, une isolation par l'intérieur ou par l'extérieur, si elle est possible, vous fera systématiquement gagner deux notes d'un coup. Et donc là, ça devient quasi obligatoire si vous voulez effectivement gagner des classes énergétiques.
Marie Cœur de Roi, merci Marie. On accueille maintenant Delphine Merle, bonjour.
Bonjour Cédric.
Pour Whitebird. Et alors, on va rester un petit peu dans ce domaine de la transition et on va parler des infrastructures de recharge de véhicules électriques dans les copropriétés. C'est pas facile à gérer, à mettre en place, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de la situation ?
Alors, donc nous, on est donc syndic de copropriété, entre autres, et donc on accompagne évidemment des copropriétaires dans leurs projets d'installation de bornes électriques. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un très gros décalage entre finalement cette mode et ce courant dans lequel il faut qu'on aille tous, et puis le taux d'équipement. Je crois qu'en France, le taux d'équipement en bornes électriques des copropriétés, c'est 2%. En région parisienne, c'est 4%. Donc c'est encore très très faible. Et surtout, c'est un frein pour certains copropriétaires qui veulent investir dans une une voiture électrique.
Et qui ne le font pas parce qu'ils n'ont pas quoi la charger.
Comment je vais faire, ça va prendre encore du temps, etc.
Ce qui est hallucinant en plus, c'est que même sur des immeubles neufs ou quasi neufs, hyper récents, j'en connais un, il n'y a pas de borne de recharge.
Mais alors ça, c'est vrai que c'est assez frappant. Mais depuis, à partir de 2021, en fait, tous les nouveaux permis de construire depuis 2021 imposent effectivement d'anticiper.
C'est dommage parce que ça tombe pile là où il y a de moins en moins de permis de construire délivrés. c'est quand même très dommage.
C'est ça. Mais on se dit que peut-être ceux qui achètent dans du neuf pour les prochaines années, ils seront équipés. C'est déjà pas mal.
Quels sont les freins qui existent, enfin qui expliquent ce retard, etc.
Bah, alors déjà, il y a le fait que les aides tous les, tout, et la compréhension aussi des mécaniques d'installation de bornes a mis du temps à se déployer. Donc il y avait un problème déjà de connaissance, de comment est-ce qu'on fait, qui j'appelle, combien ça coûte, etc. Il y a le sujet du coût, puisqu'en copropriété, il y a plusieurs solutions, on pourra y revenir, mais les solutions collectives peuvent avoir un coût pour la copropriété et ceux qui vont acheter leur véhicule.
Y compris ceux qui ne vont pas
véhicule diesel il y a 5 ans, qui n'ont pas l'intention de changer, ils se disent mais pourquoi je paierais
alors
aujourd'hui on a la chance d'avoir aussi beaucoup de possibilités à leur proposer en termes de financement, en termes d'aide, et évidemment nous notre rôle en tant que syndic de copropriété c'est d'accompagner, donner des conseils parce que l'objectif c'est d'installer des solutions pérennes. Le taux d'équipement montant, plus on anticipe,
et ça coûte combien, parce que là on tourne autour du pot, mais ça coûte cher à une copro?
Alors en fait il y a trois options quand vous vous posez la question. Il y a l'option numéro un qui est de dire en fait, chaque copropriétaire fait ce qu'il veut globalement. On va se brancher sur le réseau de l'immeuble. Le seul impact que ça pourra avoir, c'est qu'éventuellement la puissance énergétique de l'immeuble soit pas suffisante, donc potentiellement augmenter de tarif, donc changer de puissance. Nous, c'est pas forcément ce qu'on préconise. Enfin, nous et je pense l'ensemble de la profession et aussi le législateur, parce que c'est pas pérenne. Parce qu'au bout d'un moment, si vous avez 10 places et qu'au début il y a une seule voiture qui s'est branchée, ça va. Et puis si dans 5 ans il y en a 10, est-ce que l'ascenseur marchera encore quand tout le monde sera en train de se charger?
Et puis qui paye?
Et ben ça, c'est chaque copropriétaire qui du coup va aller se raccorder et paye
sa consommation
et l'installation de sa borne. Après, il y a la solution de demander à un opérateur d'installer un point de livraison qui sera dédié aux bornes électriques. Et donc là, on passe un contrat avec un opérateur avec des systèmes de financement et du coup après un contrat de maintenance et un contrat pour fournir l'électricité. Donc ça, c'est une solution qui marche assez bien et qui aussi bénéficie d'aide, notamment l'aide à devenir, qui prend en général 50% de la charge. Donc après, on va dire que ça peut revenir à 4-5 000 euros. Après, encore une fois, ça dépend vraiment de la taille. Voilà, c'est pour des copropriétés très moyennes. Et ensuite, après, chaque copropriétaire va installer sa borne et puis payer son abonnement. Et ensuite, il y a depuis juin de cette année, il y a la possibilité de passer par Enedis et donc de faire venir un point de livraison qui appartient à Enedis et après charge à chaque copropriétaire de choisir son opérateur pour installer sa borne. Donc cette solution elle a d'autres avantages, elle permet d'être plus flexible pour chaque copropriétaire de choisir sa propre solution, sa propre borne. Donc voilà, les deux dernières solutions sont quand même
mais
assez
mais ça c'est de nature aussi à valoriser les biens, j'ai envie de dire, parce que nous notre sujet c'est aussi surtout l'immobilier. Est-ce que typiquement justement le fait qu'on soit sous-équipé pour les copropriétés, y compris ces copropriétaires qui eux sont encore au diesel et on n'en a rien à faire de la borne, le jour où ils auront envie de revendre et qu'ils pourront dire bah ouais mais chez moi on est équipé donc vous pourrez, c'est quand même un argument de vente assez intéressant aujourd'hui.
Tout à fait, et je pense que ça fait partie, c'est la même logique d'investissement en copropriété, tout ce qu'on fait finalement on le prend comme une charge, mais un immeuble qui est ravalé, un immeuble qui est bien entretenu, des parties communes, forcément vous quand vous achetez votre appartement et que les parties communes sont moches, qu'il n'y a pas de borne électrique et que
il n'y a pas de local vélo.
Ah oui, pardon, le local vélo là.
Non, mais c'est des sujets importants et je pense que c'est vrai qu'il y a, enfin maintenant les copropriétaires sont de plus en plus ouverts à la discussion. Après maintenant l'enjeu ça va être aussi le temps, parce que là tout le monde va commencer
à s'activer
et les délais,
il n'y en aura pas pour tout le monde,
voilà, et les délais de mise en œuvre sont quand même assez longs. Enfin là l'année dernière on observait que une fois que la décision était prise en assemblée générale on pouvait attendre jusqu'à 8 mois pour pouvoir faire les travaux. Puisqu'en fait, il y a quand même beaucoup d'acteurs à coordonner, et évidemment, des files d'attente, etc.
Et vous, votre boulot là aujourd'hui, c'est un travail d'évangélisation en fait.
Il y a évangélisation et puis aussi gestion de projet et conseil. Après, nous, c'est pas nous qui décidons évidemment, mais nous, notre rôle, c'est vraiment de présenter toutes les solutions qui s'offrent aux copropriétaires. Je crois que c'est vraiment important qu'ils choisissent en toute connaissance de cause et qu'ils se disent pas dans 2 ans, ah bah si on m'avait dit que je pouvais faire l'option B, j'aurais choisi l'option B.
Mais à un moment, il faudra que vous nous quantifiez quand même la valeur que ça a après sur...
Parce que pour le moment, ça ricane encore dans les assemblées générales quand un copropriétaire vient dire est-ce que je pourrais mettre un truc pour brancher ma Zoé.
Alors ça va quand même mieux. Hein. On voit quand
oui,
même.
Oui, mais quand vous aurez réussi à valoriser et à estimer la valeur de ces installations, je pense que ce sera beaucoup plus.
Je suis d'accord, tout à fait.
White Bird et Delphine Merle nous accompagnaient ce matin. Merci d'être passé nous voir.
Merci à vous.
Marie.
À demain.
Le marché parisien. Il résiste, il fait tout pour essayer de rallier les 6000 points, toujours ces fameux 6000, qu'en disent nos traders. On les retrouve dans un instant.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Deux traders à votre service, c'est la promesse quotidienne de BFM Patrimoine et leur regard est probablement ce matin encore très intéressant à avoir. Jean-Louis Cussac, Alexandre Baradez sont au rendez-vous. Bonjour messieurs. Bonjour. Et merci d'être présents ce matin.
Bonjour.
Jean-Louis depuis Perceval Finance Conseil et Alexandre depuis IG. Bon Alexandre, dites donc les 6000, c'est un phare dans la tempête.
Ouais, c'est une zone qui est un peu technique parce qu'il y a quelques niveaux, mais les grosses zones, si vous voulez, de support pour le CAC 40, elles sont plutôt dans la zone 5008, première zone, et puis ensuite en dessous, c'est plutôt vers 5006. Ce qui est intéressant quand même de voir, c'est que hier la Fed, donc la Banque centrale américaine, a procédé à une hausse de taux qui était en ligne avec le consensus, mais il y avait quand même des craintes de la voir sortir le 100 points de base, hein, qui aurait été une hausse absolument spectaculaire, non vue depuis plus de 40 ans. Elle n'a pas fait. Alors, non pas que ce soit à prendre quoi, un message accommodant. 75 points de base, ça reste une hausse de taux absolument gigantesque, qu'elle a déjà fait dans un passé récent. Donc, le message de Jérôme Powell reste agressif. Les projections d'inflation de la Fed restent agressives. Mais il me semble, c'est un signal faible, mais il me semble que 75 points de base, ça marque le top agressivité, le point haut de l'agressivité de la Fed. Point haut de l'agressivité, donc ne veut pas dire qu'après on va redescendre tout de suite dans quelque chose d'accommodant, mais ça peut avoir une implication sur la trajectoire des taux américains qui ont beaucoup, beaucoup grimpé, notamment les taux courts, qui vont peut-être commencer à se stabiliser un petit peu du coup, notamment le taux de 2 ans, qu'on surveille beaucoup par rapport à l'appétit pour les actions en parallèle, du coup, hein, qui vient rogner l'appétit pour les actions tant qu'il monte. Et ça veut aussi dire peut-être, et ce matin on commence à faire quelques petites choses, alors c'est lié à la Banque du Japon, mais je pense que ça s'inscrit dans ces pas-là, peut-être qu'aussi on commence à toucher un petit peu le pic appétit pour le dollar. Tout ceci ne veut pas donc dire que d'un seul coup tout va se retourner et repartir dans l'autre sens, mais je pense qu'on est en train d'arriver dans des zones d'un peu de frottement là, où ça devient un peu intolérable pour certaines banques centrales, le niveau du dollar, et quelques minutes avant qu'on prenne l'antenne, c'est le Japon qui a confirmé son intervention sur le marché d'échange. C'est assez rare, hein, c'est pas des choses qu'on voit tous les 3 matins, donc le Japon confirme être intervenu sur le marché d'échange, et on a vu effectivement le yen se renforcer assez fortement l'espace de quelques secondes. Donc c'est un des premiers signaux selon moi, et je pense qu'il y en aura d'autres, que le niveau du dollar devient trop élevé en fait. Donc vous voyez, on commence à avoir des signaux qui peuvent traduire que sur l'aspect dollar et l'aspect taux, on commence à toucher un peu le plafond. Et donc, en quoi ça nous intéresse pour le CAC 40, les indices ont suivi quand même depuis plusieurs mois une trajectoire qui était la même. Une baisse des indices couplée à des taux qui montent beaucoup aux États-Unis et en Europe et un dollar qui reste très fort. Si on commence à avoir des banquiers centraux qui interviennent par de la rhétorique d'abord ou par des actions concrètes comme la Banque du Japon, ça peut commencer à couper un petit peu cet élan. Et donc, moi, je continue de penser que le CAC 40 a de bonnes chances d'être soutenu dans cette zone 5006-5008. Alors là où on se parle, peut-être qu'on ira un peu plus bas, peut-être un peu plus haut, mais disons que je trouve que le risque reward à la baisse, c'est-à-dire l'espérance de gain si on veut shorter le marché dans les mois qui viennent, il me semble que ce risque reward, cette espérance de gain, c'est quand même pas mal réduite. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des à-coups un petit peu plus bas, mais il me semble qu'il y a quand même des hypothèses assez fortes pour que le CAC 40 puisse tenir cette zone 5008-5006, qu'elle soit encore un petit peu testée. Donc, je trouve qu'on commence à arriver dans des choses qui sont un petit peu plus équilibrées. il n'y a toujours pas de signal d'achat court terme. Ben, si on achète à 5009 ou 6000, c'est des zones pour l'instant toujours propices aux investisseurs qui sont patients, qui savent faire preuve d'attente dans le temps. Mais si on commence à avoir le cas qu'aller chatouiller des zones, elles sont plus hautes, mais on revient dans les zones qui ont marqué la dernière fois l'échec à 6400 points, un retour à 6004, je sais que pour un trader, c'est une zone qui est pas à côté, mais pour autant, un retour à 6004 commencera à acter le fait que le marché ait formé son creux et son bottom. Donc c'est à surveiller, on n'y est pas encore, donc il n'y a pas de précipitation à avoir. Mais voilà, je pense qu'on est dans une zone plus équilibrée pour les indices, et qui va continuer d'être un petit peu donc en tôle ondulée. Voilà, cette phase où finalement il n'y a pas de tendance, mais où la pression baissière pourrait commencer à être un petit peu révisée dans les semaines qui viennent.
Voilà donc la vision proposée par Alexandre Baradez. Jean-Louis, Cussac, même question. Les 6000, c'est la boussole du CAC ?
Ah, je sais pas où est la boussole, mais je crois qu'ils l'ont perdue. Là, je viens de vendre à 6009, là. Franchement, ce matin, j'aurais pas imaginé à 10h30 que j'aurais vendu à 6009 partant de 5930. C'est dingue. Hier, on a fait vraiment moins 70 points après l'annonce de la Fed, plus 110, plus 100, moins 110. Et ce matin, on est déjà à plus 80, pratiquement enfin, plus de 80 points de reprise sur le point bas. Ça veut dire, peut-être, marché veut pas baisser. Pourquoi? Bah, parce que, il n'y a pas d'intérêt de conviction, il n'y a pas de boussole quelque part, en tout cas sur le plan fondamental. Vous vous rendez compte, on a fait ces derniers temps des gaps à la baisse, zéro relais derrière, que des reprises, et violentes. C'est vraiment ce marché, un distributeur de claques potentiel, donc il faut être très prudent. Là, j'essaye toujours de vendre le mieux possible, mais j'arrive jamais à vendre évidemment sur un point haut. Si j'y arrive, parce que je répartis, parce que je suis très très prudent, donc je répartis. Mais à chaque fois, j'encaisse des pertes potentielles pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, et tout d'un coup, bingo, le marché se casse la figure et on gagne. Alors c'est pas de la chance, c'est aussi suivre un process. Alors on peut faire mieux, mais en tout cas moi c'est comme ça que je fais. J'essaye toujours de vendre le mieux possible. Et ce matin, je vous dis là à l'instant, je viens de vendre à 6009. Je peux voir 6060, 70, c'est prévu. De toute façon, le premier niveau de neutralisation que j'ai proposé sur votre antenne, c'est 6160. C'est pas si loin que ça. C'est évidemment c'est 160 points au-dessus, mais c'est aussi simplement même pas 2,5% de plus que ce que fait le marché actuellement. Donc bon, c'est pas énorme. Difficile d'être vraiment très très précis dans ces recherches de points hauts, de points bas. Alors à rechercher le mieux possible, en général on ne fait pas grand chose. Donc voilà, il faut continuer ces process. On est toujours dans un sens prioritaire vendeur. On voit bien que la volatilité implicite est autour de 23,5. Il y a beaucoup de méfiance. Les volumes 400-500 millions à cette heure-là, c'est pas énorme, mais bon, ça va. Et personne ne sait vraiment quoi faire. En tout cas, il n'y a pas d'initiative importante. Il n'y a pas de conviction. Ça, c'est certain. Vous savez, ces mouvements, ils sont pas le fruit du hasard. Ils sont le fruit des constructions de marché, donc des phénomènes techniques. Et dernier point, c'est la Swiss Bank qui a monté ses taux, etc. Il y a des grandes manœuvres sur les taux avec les banques centrales. Aujourd'hui, c'est chaud, et on pourra en reparler, mais sur en effet le dollar yen, il y a une très grosse intervention de la Banque du Japon.
Merci beaucoup à tous les deux. Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil, qu'on retrouve tout à l'heure à 11h30, et Alexandre Baradez, qui nous accompagnait depuis IG, le marché parisien. 6007 points. On perd 0,4%.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Nicolas Dose, bonjour.
Bonjour.
Un chèque transport en préparation, selon aujourd'hui en France, le Parisien. Le gouvernement prépare une aide pour les usagers des trains du quotidien. Ça pourrait ressembler à quoi?
Alors ce serait un chèque versé en une seule fois en 2023 aux abonnés au train du quotidien, TER, Transilien, mais sous condition de ressources. On n'a pas d'idée de la condition de ressources. Est-ce qu'il y aura l'ensemble des classes moyennes ou pas? On verra. En tout cas, c'est l'information qui est donnée aujourd'hui. Le montant évoqué serait de 50 euros, donc à 50 euros pour amortir l'effet d'inflation. Je rappelle quand même que tous les billets des trains du quotidien sont déjà subventionnés par l'État ou par les régions, à hauteur de 75%. On ne paye qu'un quart du prix. Ensuite, le payeur, ce sera le Trésor. Visiblement, Bercy veut s'en occuper. D'abord parce que alors que les régions sont quand même les opérateurs des trains du quotidien. Mm-hmm. Mais souci d'efficacité, là, je le comprends. Puis il y a aussi un petit peu de politique. Vous avez vu, c'est le gouvernement qui vous donne cet argent.
Merci.
Hein, c'est pas la région. on ne se trompe pas de généreux donateurs. Les enjeux, bah, il faut contenir l'inflation. L'idée alors pourquoi ce produit-là ? Donc, bien sûr, amortir l'inflation, c'est évident, mais agir avec une mesure ponctuelle, parce que sinon, derrière, quelles sont les autres solutions ? Bah, vous baissez les taxes, la TVA, mais quand vous avez baissé une taxe, vous savez que le jour où vous la remontez, c'est jamais. Donc, vous inscrivez dans le temps. Donc là, c'est vraiment ciblé dans le temps. C'est aussi ciblé sur les bénéficiaires. On a suffisamment dit au gouvernement qu'il fallait cibler les aides. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est lié au transport. Alors, on va nous dire, ah ben oui, mais celui qui est modeste, mais qui, lui, n'a pas de transport en commun et qui verra que les ristournes sur les carburants ont disparu, il est l'oublié de l'affaire. On pourra avoir tous les débats qu'on veut. Il y a du vrai. Et on décide de subventionner plutôt un mode de transport un peu moins polluant, le train, que de subventionner les carburants. Voilà les éléments d'information du jour. On a tous les détails, normalement, dans la loi de finances qui est attendue mercredi prochain au Conseil des ministres.
Mais enfin, s'il y a de l'inflation, c'est-à-dire que les billets de train vont augmenter ?
Alors, il n'y a jamais eu de prise de position officielle de la SNCF, mais là, je réponds oui. Vous prenez la séquence de Jean-Pierre Farandou, le président de la SNCF, depuis la fin de l'été jusqu'à aujourd'hui. Il est passé au Sénat, il est passé sur BFM TV, dans plein de médias. Il dit partout, ma facture d'électricité explose. Et puis, le pire, c'est que c'est la vérité. Vous prenez la facture d'électricité de la SNCF 2022, elle a doublé. Et au prix actuel du marché, en théorie, le surcoût 2023, c'est entre 1,6 milliard d'euros et 1,7 milliard d'euros. Alors, c'est en théorie, parce que comme tous les gros industriels, et Dieu sait si c'était un gros industriel de l'électricité, c'est le premier consommateur de France. Et évidemment, vous savez qu'ils ont des contrats de long terme, et les contrats de long terme lissent quand même les mouvements erratiques des prix. La réalité, c'est qu'on ne va pas transférer l'intégralité de la hausse de la facture dans les billets, mais les prix vont augmenter, et tout le monde paiera. Les prix augmenteront, y compris pour le TGV. Le TGV n'est pas concerné par le chèque dont je vous parle, mais le prix du TGV va monter, les régions paieront un peu, puis l'État paiera aussi si ce chèque est bel et bien confirmé. Je rappelle que c'est une information de presse dans le budget présenté la semaine prochaine.
N'empêche que ça fait une aide de plus, une subvention de plus. Est-ce que le gouvernement a raison d'élargir ?
Alors je comprends bien l'aspect politique du sujet. On achète la paix sociale parce qu'on est devant un vrai choc énergétique. C'est pas une petite inflation sur l'énergie. Les factures explosent littéralement. Après, il a raison de préférer des mesures ciblées. Dieu sait si tous les économistes sont d'accord pour dire le seul moyen, c'est d'avoir des mesures ciblées. Alors, la mesure ciblée, elle a un petit inconvénient par rapport à la mesure globale. Parce que quand vous avez une mesure ciblée, vous avez à peu près zéro effet sur l'indice des prix à la consommation dans son ensemble. Tandis qu'avec une hausse globale, comme par exemple sur les carburants, là, vous contenez vraiment le niveau de l'inflation de l'ensemble du pays. Donc, l'effet sur le niveau de l'inflation en France ne sera pas aussi probant qu'avec des mesures globales. Mais il y a un moment, il faut évidemment cibler les dispositifs. Après, et vous allez me dire, je vous le dis quasiment tous les jours quand on parle de ces sujets de pouvoir d'achat, c'est que vous vous souvenez, on a vécu 2020-2021 avec un truc qui s'appelait Quoi qu'il en coûte.
Oui.
Bah, qu'est-ce qu'on fait là ? On est en train de recycler, de rebaptiser Quoi qu'il en coûte 2020-2021 en bouclier anti-inflation 2022-2023. C'est-à-dire qu'on est en train quand même de pérenniser un système qui fait de l'État l'assureur en dernier ressort des aléas de l'existence. Peut-être qu'on aura un jour un chèque sur l'alimentation. Et c'est ce qui m'a poussé à dire de manière un peu provocatrice qu'on est quasiment en train de créer une sorte de sixième branche de la Sécu où effectivement le pouvoir d'achat devient un acquis social. Mais à force d'en faire un acquis social, quand c'est un acquis social, c'est tellement acquis qu'on ne revient plus en arrière.
Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci Nicolas. Le marché parisien qui continue de réduire ses pertes. Moins 0,39%, 6007 points.
BFM Patrimoine. L'émission 100% placement sur BFM Business.
Angélique Delanxin est avec nous. Bonjour pour Ideal Wine.
Bonjour Cédric.
Merci
bonjour.
D'être au rendez-vous. Vous suivez de près le monde des enchères, de vins et particulièrement celui des grands crus. Et on va voir ensemble dans quelle mesure il est affecté par cette situation géopolitique et économique actuelle. Prise de température ?
Vaste programme.
Première question, depuis le début de cette guerre, est-ce que vous avez constaté un impact, des effets sur le monde des enchères ?
Ce serait infondé d'attribuer les évolutions récentes du marché à cette invasion. Enfin, tout ce qu'on a pu constater depuis le 24 février, ce serait un petit peu compliqué. D'autant plus que l'excellente santé du marché des grands crus peut sembler paradoxale. En revanche, c'est vraiment l'ensemble de la situation économique partiellement induite par cette guerre qu'il faut considérer. Et je pense particulièrement à trois indicateurs qui ont des effets sur ce marché. Il y a le niveau des taux d'intérêt, les effets de change, le taux de change, la valeur de l'euro et la reprise de l'inflation. Donc, des événements qui sont un petit peu anxiogènes, hein, et les derniers développements de cette guerre ne sont pas là pour les apaiser aujourd'hui.
Quelles en sont les conséquences, justement ?
Alors, nous, c'est vrai qu'avec notre antériorité d'un peu plus de 20 ans sur ce marché des grands crus, on a vu passer un certain nombre de crises boursières, financières et économiques. Je pense à 2002, 2008, bien sûr, et puis l'été 2011. Et en fait, ce que l'on a pu constater, c'est qu'à chaque fois, le vin a vraiment joué pleinement le rôle de valeur refuge. Alors, comme pour d'autres biens, que ce soit l'immobilier ou le luxe, c'est vraiment toujours le haut du panier, si j'ose dire, qui tire le mieux son épingle du jeu. En matière de vin, ce sont des signatures iconiques et surtout dans des grands millésimes, dans des millésimes de longue garde ou des millésimes, ce qu'on peut appeler du siècle. Hein, donc, on a vu une concentration du marché sur quelques signatures et ça a été particulièrement flagrant au premier semestre parce qu'on a eu des volumes qui sont restés relativement stables si on prend par rapport au premier semestre de l'année précédente. La valeur adjugée a bondi de 65%. C'est totalement inédit.
Ça veut dire que ce sont finalement toujours les mêmes.
Alors, on a, oui et non.
Bourgogne, Rhône, Bordeaux.
Oui et non. Certes, les signatures qui avaient fait le top de nos enchères, de nos palmarès à fin 2021 sont toujours présents. Les amateurs continuent à plébisciter, vous parliez de ces trois grandes régions, donc en Bourgogne, des icônes comme le domaine de la Romanée Conti, le domaine Armand Rousseau, le domaine Leroy, en Vallée du Rhône, le château Rayas ou le domaine Chaves, à Bordeaux, Pétrus et quelques autres. Tout cela font l'objet d'une demande mondiale et j'en viens à ce deuxième indicateur que je citais, qui est celui des changes, des taux de change. La faiblesse de l'euro aujourd'hui dope véritablement les achats de marchés, d'amateurs en provenance d'Asie et des États-Unis. Donc contribue à l'excellente santé de ce marché sur ces vins-là. Pour autant, les amateurs sont toujours en quête de rareté et sont aussi en quête de diversification dans un marché qui devient vraiment protéiforme. On n'a plus uniquement dans les ventes aux enchères, en tout cas sur la plateforme d'Ideal Wine, uniquement ces trois régions. Les amateurs recherchent un peu partout, aujourd'hui, des productions qui peuvent être bio, biodynamiques, voire nature.
Là, c'est la base, c'est l'état du marché. Mm-hmm. Nous, on aborde aussi ensemble régulièrement le côté un peu patrimonial. Oui. Et là, il y a une question qui commence à revenir, c'est de se dire, si les taux montent, si on retrouve du rendement ailleurs, est-ce que le vin, patrimonialement, il ne va pas perdre un peu de son intérêt, de sa superbe, de ce dont on parle quasiment depuis 10 ans?
Oui. Alors, à vous, Cédric, qui est un amateur de vin, je ne vais pas apprendre que le vin, il a une particularité, c'est que c'est un bien de consommation. Il est destiné à être ouvert, bu, et donc détruit. Donc ça crée une vraie différence par rapport à tous les autres produits de luxe auxquels on voudrait l'assimiler. C'est pas un sac de grande marque qui va être destiné à être transmis de génération en génération. Le vin va être, à un moment, c'est terrible ce terme, il va être détruit. Et ça, cette destruction va entraîner un accroissement de la rareté. Donc, sur les très grands vins, dans les très grands millésimes, dans les millésimes du siècle, on va assister mathématiquement à un déséquilibre qui va croître entre l'offre qui se réduit et la demande qui se mondialise. Donc sur ces vins-là, le risque de perte en valeur est extrêmement faible.
C'est-à-dire qu'on est capable d'avoir une idée de la progression du chiffre,
Oui, alors c'est sûr que vous parlez de la remontée des taux. Le livret A aura du mal à combattre l'exemple que je vais vous donner, parce que si je prends le domaine Leroy avec son Musigny, qui est depuis 2 ans la bouteille la plus chère adjugée sur la plateforme d'Ideal Wine dans les ventes aux enchères, je me retourne jusqu'en 2005. Un Musigny 1999 de ce domaine s'était adjugé à 536 euros. Au cours du premier semestre 2022, il a atteint 33 000 euros. Donc là, voilà, une performance qui est difficilement comparable avec tout autre bien, quel qu'il soit.
Bon, On parle là de flacons qui deviennent effectivement de plus en plus rares. Mm-hmm. Disons un petit mot de cette récolte qui vient de 2022. Est-ce qu'on a des premières indications ?
Oui, alors la rareté en fait des vins aujourd'hui, elle est induite par les précédents millésimes qui ont été très marqués par les aléas climatiques. Hein. Certaines grandes maisons de Bourgogne indiquent avoir perdu l'équivalent d'une récolte entière sur les 4 dernières années. Donc en face de ça, les premières indications, je pense qu'on en reparlera peut-être plus de façon plus approfondie le mois prochain, parce que la vendange n'est pas complètement terminée.
On est encore en cours.
Les premières indications de Bordeaux tendent à penser que les volumes vont être beaucoup plus restreints. On a eu une très forte chaleur qui a créé de l'évaporation. En revanche, alors Bourgogne et Champagne sont très heureuses de pouvoir annoncer une récolte de grande qualité et avec des volumes. Mais ce sont des vins qui ne seront disponibles que dans 2 ans.
Ah oui, c'est ça.
D'ici là, il faut gérer la rareté.
Et donc, profiter des foires au vin ?
les foires au vin, c'est un vrai beau rendez-vous, en fait. Hein. Alors, vous avez des gens qui achètent une fois par an dans les foires au vin, et puis vous avez les amateurs qui sont là tout le temps, mais qui sont là aussi pour faire de bonnes affaires dans les foires au vin. Et on peut dire que ces foires au vin qui ont longtemps été une image de déstockage massif, aujourd'hui, elles ont vraiment acquis leur lettre de noblesse. Il n'y a plus un vigneron, plus une marque qui devrait se sentir honteuse de figurer dans les belles foires au vin qui sont très sélectives, avec quelquefois des quantités d'ailleurs réduites sur certaines cuvées. Et c'est là où Internet, d'ailleurs, au passage, a un petit avantage, parce qu'elle évite de devoir courir partout pour chercher des bouteilles.
Donc du coup, chez vous, ça marche bien.
Alors, ça a été... oui, elle n'est pas complètement achevée, mais c'est vrai que pour l'instant, on a une progression de 40% par rapport à l'année dernière. Ce qui indique bien, d'ailleurs, que... là, j'en reviens à ce dernier indicateur qui est l'inflation. C'est que on a une perspective d'augmentation des tarifs à la sortie des domaines, compte tenu de la rareté des vins sur les 2 derniers millésimes. Et c'est peut-être pas une mauvaise idée de jouer la fourmi en attendant ces hausses de prix.
Merci beaucoup, Angélique. Angélique de Langsin et Ideal Wine, qui nous rend régulièrement visite, le marché parisien, qui perd 0,3%, 6013 points.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on retrouve donc Jean-François Filiatre. Bonjour Jean-François.
Bonjour Cédric.
Depuis Marché Gagnant, votre sujet cette semaine ?
Eh bien, on va parler de gestion de patrimoine pour savoir que faire dans l'environnement actuel. Et pour commencer, je voudrais partir de prévisions qui ont été publiées cette semaine par Robeco. Ils font des prévisions en moyen à long terme depuis 12 ans. Et donc, première question, Cédric, à votre avis, à combien ils estiment la performance annualisée des actions des pays développés au cours des 5 prochaines années ?
Bon, je ne vais pas mouiller, je vais prendre un chiffre prudent et assez répandu quand on parle de ça, 7% ?
Perdu. 4%, 4% seulement, et c'est peu ou prou la meilleure performance qu'ils escomptent sur l'ensemble des classes d'actifs, à l'exception notable des actions des pays émergents où ils attendent 5,25%. Il n'empêche, dans un cas comme dans l'autre, on est bien loin de vos 7%.
Bon, ça veut dire qu'il ne faut plus aller en bourse ?
Ben, vous connaissez mon peu d'amour pour le market timing, donc je vais pas changer aujourd'hui. En revanche, je pense qu'il est bon de réfléchir et de s'interroger sur le temps long et... disons-le clairement, les choses vont pas en s'arrangeant, même si en fait, en pratique, on constate que les épargnants ont toujours un temps de latence pour se rendre compte de l'évolution des choses. Alors en fait, c'est un peu comme quand on vieillit, on croit qu'on est toujours aussi souple qu'à 20 ans, et puis on s'aperçoit, à un moment ou à un autre, qu'on est quand même un peu rouillé.
Vous êtes nostalgique de votre fringante jeunesse ?
Eh bien écoutez, disons-le clairement, le temps de ma jeunesse était un temps béni pour les épargnants. Début des années 80, les politiques monétaires poussent les taux directeurs vers le haut pour éradiquer la hausse des prix. Va s'en suivre une longue période de baisse de l'inflation, de baisse des taux d'intérêt qui sera très favorable au fonds euro qui prendra son essor environ 10 ans plus tard. On assiste parallèlement à une financiarisation de la société avec plein d'argent qui déboule sur la bourse, la mondialisation qui ouvre de nouveaux marchés et permet de faire croître les profits. On va être clair, en termes d'alignement des planètes, on n'avait pas mieux.
Bon, et là, vous ressentez le poids des années ?
Ouais, bah à partir de 2008, changement de décor, la croissance mondiale est clairement orientée sur des niveaux beaucoup plus faibles. Les politiques non conventionnelles écrasent les taux d'intérêt. Et un beau jour, j'ai dû vous parler de répression financière en m'interrogeant pour savoir si en fait on n'était pas rentré dans les 30 piteuses. Bien, les pronostics de Robeco sur les 5 prochaines années vont clairement dans ce sens. On est très loin des performances et des moyennes historiques sur les actions. Et pour tout vous dire, je ne cache pas, il y a une petite satisfaction, c'est que finalement, la place finalement se rapproche de plus en plus des prévisions qui sont faites par marché gagnant à moyen terme, puisqu'on dit que sur les actions, il faut compter une performance moyenne d'environ 5% par an.
Donc moi qui aime la voile, je traduis que la gestion de patrimoine ne se fait plus avec des vents favorables, mais avec des vents contraires.
Ouais, et a priori, ça devrait durer un certain temps pour des raisons économiques, le ralentissement de la croissance, la hausse des prix, modification des politiques monétaires des banques centrales, mais aussi pour des raisons politiques. Je ne sais pas si vous avez vu, mais cette semaine est sorti le nouveau rapport du Crédit Suisse sur les fortunes. 1,2% de la population mondiale détient 47,8% de la richesse mondiale, alors que les 53,2% les plus pauvres en ont tout juste 1,1%. Alors ça, c'est lié aux Trente Glorieuses, c'est lié au faible niveau des taux d'intérêt et à l'effet de levier qui a été très favorable ces derniers temps. Mais toutefois, dans nos sociétés, au système politique de plus en plus faible, c'est en train de devenir inacceptable et les pouvoirs publics ont le sentiment d'avoir choyé les épargnants. Il n'est pas sûr que sur certains sujets, il n'y ait pas du durcissement dans l'air.
Pardon Jean-François, mais pour l'heure, j'entends pas beaucoup de projets pour alourdir par exemple la fiscalité.
Non, mais pourtant, la fiscalité a été alourdie et j'évoquais tout à l'heure l'inertie des individus dans la compréhension. Là, pour moi, on est sur un exemple qui est flagrant.
Attendez, on va prendre l'exemple le plus simple. J'ai un livret bancaire qui me rapporte tous les ans un taux d'intérêt donné. Là-dessus, je paye ma flat tax, on est bien d'accord, il n'y a pas eu de changement.
Ben écoutez, vous aviez 100, on va dire que vous avez touché 2 d'intérêt dans un monde où, comme il y a peu, il n'y avait pas d'inflation. Donc, en pratique, vous aviez gagné 2 et on vous avait pris 60 centimes de taxes. Maintenant, on va, pour simplifier, dire qu'on est dans un monde où l'inflation est à 5% pour schématiser et simplifier le calcul. Ben, vos 2 de gains, en réalité, en termes de pouvoir d'achat, c'est une perte car votre argent rapporte moins que l'inflation. Et comme la règle fiscale n'a pas changé, vous allez, comme auparavant, régler vos 60 centimes d'impôt. A priori, voyez-vous, tout est pareil, sauf que, en réalité, tout est différent. Avant, la taxation, elle avait pour effet de minorer votre gain. Aujourd'hui, elle a pour conséquence d'amplifier votre perte. Si ça, c'est pas taper sur les gens qui ont du patrimoine, bon, je m'y connais pas.
Vous avez décidé de nous casser le moral. Pourtant, d'habitude, vous apportez des solutions. Il y en a là ou pas?
Bon, vous allez avoir toute une partie des épargnants qui vont vouloir sortir des sentiers battus à la recherche de performance. Alors ça peut nous amener sur des placements exotiques, sur des cryptos ou que sais-je. Sur le fond, ça va pas être ma recommandation car en pratique, ça déforme la structure de risque. Or, vous le savez, je considère que le profil de l'épargnant doit être au cœur de la réflexion patrimoniale, bien plus que les perspectives de marché.
Alors, votre solution?
Ben, écoutez, pour être à la mode, je vous propose un plan sobriété.
On consomme plus de placements sous prétexte que l'environnement est défavorable? Vous allez devenir décroissant?
Non, attendez. Si les rendements attendus sont plus faibles qu'avant, le premier acte de gestion à avoir en tête, c'est d'être économe en frais. Bref, de limiter les pertes en ligne. Alors, soyons francs, le débat n'est pas celui du sans frais, ça n'existe pas. La réflexion qu'on doit avoir, c'est se dire, si je lâche du fric, est-ce que j'ai une contrepartie suffisante. Alors, je vous propose qu'on réfléchisse ensemble. Quand vous souscrivez le fonds en euros d'un contrat d'assurance vie, il y a des frais de gestion sur ce fonds en euros et sur le contrat. Vous avez quoi comme prestation en face?
Bah, le fonctionnement du contrat, on va dire la gestion et puis quand même la garantie.
Ok, parfait. Maintenant, quand vous souscrivez un contrat et que vous investissez dans des unités de compte, il y a des frais de gestion. Question, qu'est-ce que vous avez comme contrepartie en face?
Bah, toujours, le fonctionnement du contrat, ça c'est comme pour le fonds euro. La gestion financière, il n'y en a pas parce qu'elle est faite dans l'unité de compte, avec au passage de nouveaux frais de gestion, et puis il n'y a pas de garantie.
Et du coup, est-ce que ça vous paraît logique que dans la plupart des contrats de la place, les frais de gestion sur les unités de compte soient identiques ou supérieurs à ceux du fonds euro?
Bah, pas vraiment.
Voilà. Et bien, c'est ce genre de petit réflexe qu'on doit avoir désormais. Alors, je peux faire le malin sur le sujet aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça fait belle lurette que je défends ces idées. Pourquoi est-ce qu'on a créé le portefeuille collaboratif et éducatif de marché gagnant? Ben, pour un truc tout bête. Plus il y a d'intermédiaires chaînes, plus ça coûte cher. Moins vous mettez de gens dans la boucle, et bien plus vous allégez l'addition. Est-ce que vous savez, Cédric, pourquoi il est recommandé de mettre un couvercle sur une casserole quand on fait chauffer de l'eau?
Bon, merci, parce que la température monte plus vite, parce qu'il n'y a pas d'évaporation, du coup on consomme moins d'énergie, enfin c'est pas...
Exact. Et bien dans le même ordre d'idée, dans la gestion de portefeuille, ben moi je fais en sorte que dans notre portefeuille, on limite au maximum les opérations, histoire de limiter les pertes en ligne. d'autant qu'on intervient sur des grandes valeurs qui sont soumises à la taxe sur les transactions financières. Autre exemple, sur la méthodologie de marché gagnant, on recommande de bâtir son portefeuille diversifié avec du fonds en euros principalement sur la partie à risque faible et des fonds actions à côté. Pourquoi je ne préconise pas un fonds diversifié ?
Pour des raisons de suivi, j'imagine, peut-être un peu de transparence et puis de frais, sinon vous ne m'en parleriez pas aujourd'hui.
Eh bien voilà, le fonds en euros en moyenne, c'est 0,6% de frais. Imaginons que ma partie action, je ne vais même pas considérer que je la gère en direct, mais je vais considérer que je la confie à un professionnel. Eh bien, en moyenne, il prend 1,5% de frais. Bref, si j'ai un profil 75% sans risque et 25% avec risque, ma gestion avec mon système, elle me coûte 0,8% par an, alors que si je prends un fonds diversifié, ça va me coûter 1,6% par an. Bref, avec la même espérance de gain brut, j'ai réduit mes coûts de 50%. Donc, par ricochet, j'ai augmenté mon espérance de gain. Bref, mon conseil du jour, c'est faites avec vos placements comme vous faites aujourd'hui avec vos courses. Soyez vigilants.
Jean-François Filiatre et Marché Gagnant. On se retrouve tout à l'heure pour répondre aux questions des auditeurs. Il est 11h, vous êtes sur BFM Business. On a un tout petit peu de retard dans un instant. Un détour par les marchés et regards croisés.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.